Bonsoir à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Permettez-moi de me présenter. Je suis Jocelyne Dazé, chargée de projet à la Direction de la programmation culturelle. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour une sixième conférence sur l'histoire de la région montréalaise, présentée en collaboration avec l'INRS, Urbanisation, Culture et Société. Cette série de conférences est en lien avec le projet « Histoire de la région montréalaise des origines à nos jours », auquel BANQ collabore en fournissant de l'aide professionnelle et en facilitant l'accès aux sources iconographiques et photographiques, aux archives et à l'ensemble des documents traitant du sujet. BANQ travaille également au rayonnement du projet, notamment par la présentation de cette série. La thématique porte aujourd'hui sur l'occupation du territoire de la région montréalaise depuis les années 1950. Les conférenciers invités sont Claire Poitras et Gilles Sénécal. La rencontre est animée par Denis Fougère. Ils sont tous trois de l'INRS. Veuillez noter que vous trouverez une sélection d'ouvrages sur le sujet au comptoir de la section Histoire au troisième étage de la Grande Bibliothèque. Une période de questions suivra les échanges. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer l'entretien que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le portail de BANQ. Merci d'éteindre vos téléphones cellulaires et bonne soirée.
Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici ce soir. Rapidement, je ne redirai pas ce que Mme Dazé a dit, sinon qu'effectivement, la Grande Bibliothèque nous accompagne dans ce projet depuis ses débuts en 2005. Donc, vous êtes ici, c'est la deuxième année que nous faisons des conférences sur l'histoire de la grande région montréalaise. L'histoire de la région montréalaise, c'est un projet qui implique l'ensemble des universités montréalaises et différents collèges. Un projet qui a débuté en 2005 et avec lequel nous comptons publier deux tomes de 1300 pages environ en 2011. C'est un projet donc qui implique quelque chose comme 26 ou 27 auteurs de la région montréalaise. Dans ces deux tomes, il va y avoir trois périodes historiques qui sont étudiées et aujourd'hui, c'est plutôt à partir de l'après-guerre, donc des années 1745 à nos jours. Les histoires régionales, ou plutôt l'histoire de la région montréalaise, s'inscrit dans quelque chose qui est plus large, qui est mené à l'INRS depuis les années 1980. Là, je fais, comme vous voyez, un peu de la publicité pour l'INRS. Ça s'inscrit dans le chantier des histoires régionales. Donc, ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire ont sûrement vu qu'existaient déjà les histoires de la région de la Gaspésie, de la Côte-Nord, de l'Abitibi, ainsi de suite. Donc, notre projet s'inscrit dans ces grands chantiers. Maintenant, pour aujourd'hui, réflexion sur l'occupation du territoire de la région montréalaise depuis les années 50 à nos jours. Nous avons comme deux conférenciers et conférencières, M. Gilles Sénécal, qui est spécialisé en environnement urbain, qui a dirigé un recueil qui est sorti l'année passée sur la métropolisation. Et ses territoires. Madame Sénécal est directrice du... Madame Sénécal, pardon.
Monsieur Poitras,
c'est d'être à côté de vous qui me met dans tous ces états. Madame Poitras est directrice du centre UCS, Urbanisation, Culture et Société, de l'INRS. Avant de débuter, j'aimerais revenir sur un petit point. Vous avez vu dans la publicité de la conférence qui se terminait par la suite. À la fin de tout, on parlait du réseau de transport. Ici, je dois vous avouer qu'il s'est glissé une erreur, parce qu'on s'intéresse d'abord et avant tout, pas nécessairement... Oui, on va parler un peu du transport, les auteurs vont nous en parler parce qu'on parle du territoire en général, mais je vais vous lire ce qui avait été convenu en principe de se retrouver plutôt sur cette publicité. Ça va vous donner un peu le ton de notre conférence. L'histoire de l'aménagement du territoire montréalais se poursuit au 20e siècle. Ceux qui ont assisté à nos conférences l'année dernière ont vu qu'on faisait pareil conférence, mais pour le 19e siècle. Donc, l'histoire de l'aménagement du territoire montréalais se poursuit au 20e siècle, cela avec des moyens et des possibilités qui amènent à considérer les opportunités et les contraintes spatiales autrement qu'on le faisait dans les siècles précédents. Le travail de mise en réseau, notamment avec les réseaux routiers, avec les chemins de fer, ainsi de suite, de la région s'est poursuivi avec une intensité inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, je vous mets la table sur un peu l'orientation sur laquelle on va retrouver nos deux conférenciers ou leurs conférences. J'ai oublié de dire aussi, Madame Poitras, donc, est spécialisée en aménagement, cadre bâti et en études urbaines. On va d'abord débuter avec Monsieur Sénécal. Donc, les conférences sont autour de 25 minutes. Par la suite, Madame Poitras, et nous aurons les questions après les deux conférences.
Madame Bachon?
Non, Poitras.
Poitras.
Ah, non. Ah.
Oh, oui.
Vous l'avez oublié, celle-là? Ben, Monsieur Sénécal va tout nous dire ça, vous allez voir.
Oui, bien, bonjour. D'abord, merci de l'invitation. Merci à la Grande Bibliothèque. Effectivement, Mme Vachon ne peut pas être ici ce soir. Elle a travaillé avec moi sur la compilation des données. Elle fait partie de l'équipe de l'INRS. C'est l'occasion que vous me donnez d'en parler, quand on est un peu mal pris avec des données qui sont... des bases de données qui sont assez complexes, on a la difficulté à les traiter, on essaie de récupérer tout ça, dater ça. Madame Vachon est, une statisticienne, une mathématicienne et une artiste pour démêler les données. Vous allez voir qu'elle a pu, je pense, beaucoup m'aider. Donc, elle est co-auteure et, hélas, aujourd'hui, elle ne pouvait pas être ici ce soir. Bon, pour commencer, le thème, c'est l'expansion métropolitaine. Alors, simplement pour dire que ça fait très, très longtemps, l'INRS urbanisation à l'époque, qu'on s'intéressait à cette question et on essayait toujours de représenter l'expansion métropolitaine, souvent décrite comme étant l'étalement urbain, donc dans une perspective un peu trouble, un peu comme une tache qui progresse et qui fait disparaître les milieux agricoles et des zones naturelles, les plaines inondables, déboisées. Mais en même temps, ce phénomène qui s'est produit d'expansion, c'est aussi des milieux qui s'installent, des municipalités qui vont prendre forme et qui seront des milieux de vie pour des ménages, pour des familles, pour des personnes. Donc, on essayait depuis très longtemps, il y avait une spécialiste de la cartographie à l'INRS, Mme Archambault, qui en avait fait une carte à l'époque, je pense qu'elle finissait en 1996, et on a toujours de la difficulté, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, c'est un peu un pensum de reprendre ce thème-là que M. Fougère m'a imposé. Bon, alors, c'est une question ancienne, simplement pour rappeler qu'elle a préoccupé, on peut dire, depuis le début du 20e siècle, même un peu avant, les réformistes. Au début du 20e siècle, donc les gens comme la City Improvement League qui commencent à penser Montréal comme une ville qui doit s'étendre et en s'inspirant de mouvements comme la City Beautiful, on cherche d'abord à concevoir des grands boulevards qui, certains voulaient ceinturer l'île hein, de grands boulevards. Le Montréal économique, hein, qu'Esdras Mainville avait... coordonnées pour le... C'était le 350e, c'est ça. Donc, il y a un chapitre économique où on commence à parler des banlieues. On commence à s'intéresser au thème des banlieues sur deux éléments. Je dirais la progression démographique. Et le deuxième élément, c'est on regarde... la décentralisation des activités économiques vers la banlieue, principalement manufacturière. Donc, déjà les années 40. Hein. Le plan des espaces libres de la ville de Montréal des années 44, les grandes manœuvres qui vont suivre de leur drapeau sont beaucoup inspirées de Campo, qui était le directeur du service à ce moment-là. Un exemple, c'est l'élargissement de ce qui était avant Dorchester et qui s'appelle maintenant René Lévesque. Donc, on commence, il faut décongestionner, la ville va s'élargir. Blanchard, qui est un géographe qui est venu faire de grandes études là, sur le Canada français, des années 30 à 50, publie un tome de sa vaste étude sur Montréal et Blanchard commence à parler comme ça en disant « On voit que les gens commencent à quitter le noyau central de la ville, les banlieues se forment et il semble parler d'un mouvement populaire vers les banlieues. » Je voudrais centrer d'abord ma présentation sur un événement qui s'est produit de 62, 63 à 67. L'événement, c'est la présentation. Ça s'était passé à la Place des Arts, la présentation d'un grand projet métropolitain pour la région de Montréal. Ça s'appelait Horizon 2000. Habituellement, on en parle d'Horizon 2000 maintenant, toujours pour rappeler qu'il y avait... C'est faux, d'ailleurs. Il y avait une projection que Montréal aurait 10 millions d'habitants à l'an 2000. Il y a eu donc une réflexion qui a duré plusieurs années. Beaucoup des gens qui vont enseigner à l'Université de Montréal et à l'Université McGill, par exemple, ont été formés dans cette équipe-là. On a fait venir un urbaniste célèbre des États-Unis, Blumenfeld, et on s'est mis à réfléchir sur qu'est-ce que sera Montréal, alors qu'on sentait vraiment le développement, l'explosion en train de se produire, l'explosion urbaine, et puis le développement, ce plan démographique. Donc, de 62 à 67, le service d'urbanisme de la ville font des travaux pour, en fait, réguler l'expansion métropolitaine. Donc, le constat de départ, c'est qu'il y a déjà eu une augmentation sur le plan démographique importante, que l'urbanisation commence à gagner des comtés que jusque-là, on comptait que pour agricole, et que des pôles urbains sont en train de se densifier, et qu'on assiste également à, par exemple, le canal de la Chine a fermé. Donc, déjà, c'est pas une période de désindustrialisation, mais de déplacement de l'activité manufacturière vers la périphérie. La réflexion porte beaucoup sur la forme. Quelle forme aura la métropole? Je vais vous présenter, là c'est un peu drabe, hein, mes affaires, mais je vais vous présenter, ça sera pas long, deux graphiques. Donc la forme, c'est beaucoup cette idée d'un développement en étoile. Le long d'autoroutes. Vous savez, c'est les années où on va construire des autoroutes, dans les années 50, et là, le plan de développement du réseau autoroutier est en route. Puis là, on se pose la question, est-ce que ça va entraîner une grande déconcentration? Puis on a un modèle, hein, c'est comme des branches, des pointes là, d'une étoile qui vont s'amincir vers, en fait, à ce moment-là, on regarde beaucoup les villes satellites, Saint-Jérôme, Saint-Jean. Et on crée un vocabulaire, la constellation, est-ce une galaxie? L'esquisse qu'on commence à élaborer de la région métropolitaine, vous voyez, on peut dire qu'en 66, là, l'idée est faite. Là. On donne des critères, ça va prendre des milieux de la variété. Aujourd'hui, on dirait de la mixité, hein, la mixité fonctionnelle, qui est d'une population diversifiée, qui est de l'accessibilité, donc, la mobilité, qu'on puisse accéder à des services, des équipements, de l'animation, pour pas que ce soit des lieux plates, embêtants, où les gens vont s'ennuyer. Il faut que, finalement, que les banlieues soient des vraies villes et que les gens aient une perception correcte. Les critères sont beaucoup inspirés d'un auteur qu'on connaît en études urbaines, peut-être certains d'entre vous le connaissent, Kevin Lynch, qui a écrit L'image de la ville. Donc, l'esquisse recherchée aura la forme d'une étoile. Les branches de cette étoile vont créer une infrastructure galactique. C'est une citation. Nous avons développé un guide projeté de la métropole, puis on va appeler ça « cristal de neige ». Vous voyez, c'est presque la marque d'un parfum. Hein? Donc, la forme projetée nous dit, bon, qu'est-ce qui arrive concrètement? Donc, le développement complet de l'île de Montréal. L'île de Laval, l'île Jésus, urbain à l'ouest, et on va laisser du vert à l'est, une zone agricole, mais on commence à dire, sur la zone agricole, le rendement n'est pas fameux. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est que les urbains, là, les Montréalais, puis tous ces gens des banlieues, aient accès à un réseau d'espaces verts. Et c'est la perspective de la société des loisirs, la perspective récréotouristique. Donc, et on a un modèle avec des branches vers des villes, là, Saint-Jérôme, Repentigny, Belleuil. Et des pôles forts qui sont des pôles de banlieue. Donc, c'est une métropole polycentrée. Alors, la première carte qui sera montrée, justement, dans cette grande présentation spectaculaire à la Place des Arts en 67, animé par Aimé Deshôtels, qui était à ce moment-là le directeur du service d'urbanisme de la ville de Montréal. Ça ressemble beaucoup, vous voyez, en grisé, la trame grisée, à la métropole telle qu'on la connaît, un réseau autoroutier qui est à peu près celui qu'on connaît. Le quadrillage sur l'île est plus important. Il y a des autoroutes qui sont là, qui sont prévues, qui ne seront pas là. Le noyau, la métropole projetée avec ses noyaux galactiques, je reprends leur expression, le plan témoin, on commence à dire les familles auront des revenus plus élevés. Ah, c'est ça qui s'en vient. Donc, il y aura une amélioration du niveau de vie des ménages, les gens, il y aura 3 millions d'autos. Ben, la prévision, on est à peu près autour de 2 millions là, actuellement, je pense, dans la région de Montréal. Et les gens vont prendre leur auto, puis pour le loisir, il faut faire des grands parcs autour de l'île. Et puis l'accès à la maison individuelle, et puis une intégration régionale. Alors, qu'est-ce qui est projeté à ce moment-là par la ville de Montréal? Et c'est ça que j'aimerais qu'on retienne. C'est cette idée qu'à ce moment-là, ce discours de la ville-centre contre la banlieue n'a pas lieu. L'idée de... une île, une ville, c'est pas l'idée que le service d'urbanisme est en train de... L'idée d'une métropole montréalaise intégrée est dans l'air et de voir cette succession de pôles comme étant intégrés dans un ensemble métropolitain fait partie de la vision proposée. On peut dire, 40 ans plus tard, que cette vision-là est toujours pas celle qui est acquise. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Maintenant, la deuxième partie, si on parle de 1966, hein, c'est à peu près là que le service d'urbanisme de l'époque et tout ce groupe-là nous laisse. Et là, j'ai pris trois indicateurs. L'accroissement de la population, les mises en chantier, donc qui ont été construites, et puis les traversées sur les ponts de l'île de Montréal. J'ai aussi regardé les traversées Laval-Couronne-Nord. La population. Peut-être que ce qui est en bas est moins visible, je suis désolé. Alors, on a découpé ça en quatre blocs, hein? L'île de Montréal, Laval, Rive-Nord, Rive-Sud, Couronne-Nord, Rive-Sud. Montréal connaît une légère perte de population, entre 1 900 000, on est maintenant en 2006 à 1 850 000. Bon. On n'a pas regagné la population perdue. On n'est pas revenu à la population de 1966. Le poids de l'île de Montréal passe de 73 % à 51 %. Donc, l'idée d'un espace métropolitain habité par, je dirais, autant de banlieusards, maintenant, la balance, c'est 51-49. Il y a encore 51 % de la population de la région métropolitaine telle que définie par Statistique Canada sur l'île, mais vous avez 49 %. Bon, c'est presque le référendum, hein, de 95. Bon. Alors, on a une balance très serrée. Et ce qui progresse, vraiment, la région en progression, c'est la Couronne-Nord. Laval maintient une progression constante. Hein, ils sont autour de 200 000 en 66, ils sont pas loin de 400 000, 368 000 en 2006. Donc, eux, ils avancent sous le temps. Reporté sur une carte, ce qu'on a fait là, c'est on a créé des catégories où il y avait eu des ajouts de population. En plus, c'est foncé, hein, le plus foncé, c'est entre 50 000 et 173 000, Laval. On voit bien que la Couronne-Nord a été un réservoir de population, d'activité aussi important. Donc, finalement, une distribution de la population vers la périphérie. Les mises en chantier... on a pris un indicateur de façon à éviter que, par exemple, un pourcentage, une très petite municipalité double sa population, vous voyez. Bon. Alors, l'indicateur, c'est le nombre de mises en chantier par 10 000 habitants. Lorsqu'on regarde la courbe, hein, on prend des années témoins, les années de recensement en 6, 66, 76, 86, 2006. Non, on a la courbe qui est celle du marché immobilier, pour ceux qui s'intéressent. Bon. Ce qu'on voit, c'est finalement, les quatre entités, les quatre secteurs qu'on regarde suivent la même courbe, mais c'est vraiment la Rive Nord qui, par exemple, en 76, le secteur gagne en 274 mises en chantier par 10 000 habitants. Et l'île de Montréal semble perdant ce que... Alors là, on va regarder des cartes, on va revenir à chaque 10 ans, c'est les 10 municipalités, les hotspots, qui reçoivent, qui gagnent le prix de l'indice du nombre de mises en chantier par 10 000 habitants. Alors là, sur la carte de 2006, on les retrouve au complet. Alors, ce qu'on voit, c'est en 66, les municipalités qui gagnent le concours des mises en chantier sont sur l'île de Montréal et un peu sur la rive sud. Et plus on progresse dans le temps, plus les municipalités qui accaparent les mises en chantier, proportionnellement, sont à l'extérieur de l'île d'abord et ensuite sur la rive nord, plus spécifiquement. À ce concours, l'île de Montréal gagne très peu. Certaines banlieues restent quand même, dans l'ouest de l'île, là, il y a Pierrefonds ou Kirkland qui s'en tirent bien. Troisième indicateur, les traversées des ponts de l'île de Montréal. C'est une donnée très difficile à avoir. Le ministère des Transports, c'est un peu l'enfer. Hein? Regardez la liste des sources, très difficile à obtenir, puis à intégrer ça. On avait une des données de 1938, c'est la courbe. Qu'est-ce que ça dit, en gros? C'est que la progression des ponts sur l'île de Montréal est constante. Donc, on s'en va là, vers 1 300 000. C'est des données qui sont journalières, moyennes, annuelles. C'est donc le nombre de traversées moyennes annualisées. Ça veut dire que ça compte les allées et les retours sur le pont. Bon. La graphique qui est là est intéressante parce que ce qu'on semble percevoir maintenant, c'est qu'on amorcerait depuis quelques années tout récemment, une décrue. C'est-à-dire que la progression, ça commence à se tasser et probablement que la courbe va commencer à baisser. C'est ce qu'on sent. Mais les données des dernières années, c'est les plus dures à avoir. Alors, il faudra confirmer cette hypothèse-là, mais l'hypothèse de la décrue. Pendant ce temps-là, si on regarde les ponts Laval, Couronne-Nord, on voit la progression. Cette décrue-là, on ne pourrait pas la poser en hypothèse. La progression diminue un peu, mais elle continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps-là? Donc, c'est constitué des pôles urbains. Et ce qui a été vraiment au centre de tout ça, c'est des pôles commerciaux. Alors là, vous voyez, c'est l'équipe là, du service d'urbanisme des années 60. Les premiers centres commerciaux, ils sont sur l'île de Montréal. Puis là, on parle de petits centres. Hein, le premier centre, là, le Strip Mall Norgate, à Saint-Laurent, 51. Vous voyez, l'activité commerciale est au centre. C'est toujours vrai, 71, quand on commence à avoir des centres d'achat, vous savez, plus classiques, là, comme le centre d'achat Boulevard, Versailles, vous savez, des trucs comme ça. Ils commencent à en avoir sur la rive sud et un petit peu dans le centre de Laval. En 2001, la distribution commence à être métropolitaine. Et là, je vous ai mis une image assez intéressante. Ça, c'est sur l'île de Montréal. C'est pris sur un site de la ville de Montréal. C'est le secteur de l'Acadie, où on trouve, pas très loin, le marché central. Non seulement il y a eu, ces pôles commerciaux vont commencer à disséminer vers la périphérie, mais un phénomène très intéressant, c'est que sur l'île de Montréal, l'espace urbain, à certains endroits, peut commencer à ressembler à l'espace de la banlieue. C'est le cas du marché central, notamment. Alors, on va trouver, par exemple, des strip malls là, sur la rue Sherbrooke, dans l'est. J'essaie de représenter l'évolution du paysage urbain. Donc, on est parti, si vous voulez, sur l'île de Montréal avec des quartiers multifonctionnels. C'est l'exemple de Saint-Henri, où on a des grandes industries structurantes, on a une rue commerciale à la rue Notre-Dame, où il y a les grandes activités, des théâtres, des commerces, tout est là. À la limite, on peut à peu près tout faire à pied. Hein, c'est le nouvel urbanisme là, qui était déjà là, c'est ça le nouvel urbanisme. Donc, un espace multifonctionnel qui va commencer à se défaire dans les années 60. Anjou, c'est l'urbanisme fonctionnaliste des années justement 50-60 qui se met en place, un échangeur autoroutier, un centre commercial et une banlieue jardin derrière avec des maisons unifamiliales. Si on y va maintenant, je n'ai pas mis d'image, mais moi j'ai un étudiant qui travaille sur Anjou. Si vous allez maintenant dans le secteur d'Anjou, vous allez voir hein, du côté est de l'échangeur, un des endroits les plus denses de l'île de Montréal, hein, avec des tours de condos. Donc, c'est des espaces de transformation. Mais au début, on a sur l'île de Montréal quelque chose qui ressemble beaucoup à la banlieue. C'est le modèle qu'on voit à Laval, qu'on va voir ailleurs. Troisième exemple, plus récent, le Centropolis à Laval. Donc, c'est un projet qui apparaît, comment dire, comme une volonté de densifier les espaces commerciaux qui, à l'époque de l'urbanisme fonctionnaliste, étaient quand même assez lâches. Là, on veut avoir des tours à condos, des bureaux, de l'espace de travail. Donc, on a des cinémas, une diversification des milieux, vous voyez, ceux qu'on avait prévus dans les années 60. Un exemple, le cinéma. Alors, on voit que les formes ont évolué, mais pour aller vite, on peut dire ceci. Si on regarde l'évolution depuis le 19e siècle, des cinémas, et là, c'est des places assises. Bon, je devrais là compléter mes données, j'ai arrêté en 2003. Mais disons-le comme ça, ce qui était avant l'apanage du centre, hein, les activités culturelles, aujourd'hui, il y a plus de salles, de places assises de cinéma en périphérie que sur l'île. Et si vous habitez à Laval, dans la couronne nord, qu'importe, vous voulez voir un film, vous n'irez pas au centre-ville, à moins d'aller à la cinémathèque, de voir un produit rare, si vous voulez. Mais sinon, il y a eu cette décentralisation de la culture. Je termine simplement par une réflexion qu'on a faite sur la forme de la région métropolitaine. On a pris des données d'origine de l'enquête origine-destination, puis on a essayé de les reporter en structurant les grands axes là, dont on parlait tantôt des années 60. Et regardez, est-ce que la population, plutôt que regarder les territoires municipaux, regardez les territoires vécus hein, qui, de la mobilité quotidienne. Quand on fait ça. En fait, pour chacun de ces territoires, dont vous voyez les couleurs, on a à peu près en 60 et 70% de navetteurs qui se concentrent là. Les grands axes structurent la mobilité métropolitaine. Mais on se rend compte parallèlement à ça, c'est que si c'était vrai dans les années 60 qu'il y avait beaucoup de trajectoires centre-banlieue, on commence à assister à des territoires constitués, comme sur la rive sud, qui répondent moins à cette représentation très axiale de la mobilité. Alors, on voit l'est, c'est un peu comme ça, là, du centre jusqu'à Repentigny, le West Island. Notre exemple, nous, qu'on a beaucoup exploré, c'est l'axe centre-nord. On voit bien là que ça regroupe beaucoup de destinations des navetteurs. Donc, notre axe centre-nord. Ça vient capter aussi les trajectoires résidentielles. C'est une carte des trajectoires résidentielles. C'est structuré par des pôles commerciaux. C'est la carte avec des points rouges. Et on a regardé aussi, en reprenant des données Statistique Canada sur l'emploi, et effectivement, là, c'est plus difficile, hein, c'est par secteur de recensement, mais on retrouve à peu près l'emploi et les pôles commerciaux. Il y a quand même une bonne, je dirais, concordance. Conclusion de cet exercice, oui, ça va passer un peu vite. Le mouvement d'expansion a suivi des séquences qui ont favorisé d'abord les anciennes banlieues de l'île de Montréal, puis la rive sud, puis depuis 1996, la couronne nord. Laval suit une progression constante. Ça l'a conduit à une forme polycentrique consolidée, avec des pôles périurbains très robustes, très multifonctionnels. Les facteurs explicatifs standards qu'on a, l'accroissement de la population, les coûts du sol, c'est moins cher, les politiques publiques favorables, on le sait, l'iniquité fiscale, ça peut être vrai, je pense que ça reste vrai, mais c'est insuffisant. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. L'expansion métropolitaine, c'est d'abord un mouvement populaire de gens qui quittent la ville, pour certains, qui quittent les quartiers centraux, et qui aujourd'hui, depuis les années 60, on l'a vu avec les trajectoires résidentielles, sont ancrés. Hein. Leurs enfants, par exemple, sur la Couronne-Nord, Boisbriand, hein, sont installés là maintenant. Les différences morphologiques centre-banlieue s'atténuent. Hein, la banlieue commence à essayer d'avoir des formes qui se rapprochent de ce qu'on concevait comme l'idéal urbain. Et en même temps, sur l'île de Montréal, on reprend des formes qu'on associe à la banlieue. On assiste à un léger repli des traversées vers Montréal. Et enfin, je crois que ça reste une tension entre une structure métropolitaine construite, polycentrique, métropolisée, qui est politiquement faible, mais ça, c'est pas mon sujet, et l'ancrage local qu'accentue des pôles locaux très robustes. Alors, merci beaucoup.
Merci, M. Sénécal.
Je vais m'enlever, je vais te laisser.
Alors, ce que je vais faire, moi, c'est vous présenter un survol de la banlieue, de l'histoire de la banlieue de la région de Montréal depuis les années 50, mais ce, vu de l'intérieur. Donc, c'est assez complémentaire avec ce que Gilles vient de faire, qui vous a donné les grandes tendances de la structuration de la région métropolitaine et comment les rapports ville-centre se sont modifiés au cours des décennies. Et moi, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt quelles sont les différentes formes de types de banlieue qu'on retrouve dans la région métropolitaine, et je mets l'accent sur un type en particulier que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, ma présentation est organisée en trois points. Dans un premier temps, je vais rappeler un peu la suburbanisation à Montréal, comment ça s'est déplacé de l'île à la région métropolitaine. Je vais faire ça très rapidement parce qu'on l'a déjà bien vu avec Gilles. Ensuite, je vais aborder la question générale, qu'est-ce que la banlieue? Je vais vous présenter quelques archétypes et réalisations nord-américaines et aussi des exemples à partir du cas montréalais. Enfin, c'est le travail que je fais plus spécifiquement dans le cadre du projet d'histoire régionale. Je fais une exploration d'un type de banlieue particulier qui existe dans la plupart des régions métropolitaines nord-américaines et entre autres aussi à Montréal, de ce que j'ai appelé les banlieues planifiées, dont je vais vous fournir une définition plus précise tout à l'heure, et qui sont situées à l'extérieur de l'île de Montréal. Et je vais vous dire pourquoi j'ai retenu ce cas particulier de ville de banlieue. Donc, juste pour finalement revenir un petit peu sur ce que Gilles a présenté pour montrer l'évolution de la région métropolitaine, c'est une carte qui va superposer une série de cartes qui sont celles de la région métropolitaine de recensement, telle que définie par soit le recensement du Canada ou Statistique Canada. Donc, c'est basé sur une définition statistique d'une région qui s'appuie sur la question du navettage, du déplacement, domicile-travail, à partir du moment où une personne se déplace dans une municipalité pour aller travailler, mais il fait partie d'une région métropolitaine. Et on voit qu'entre les années 1950 jusqu'à 1996 et encore 2006, le prochain recensement là, dont on va obtenir les données, que la région n'arrête pas de grossir. Oui, il y a une croissance démographique, mais la région métropolitaine inclut aussi des nouveaux territoires, donc ce qui fait en sorte que la population est toujours de plus en plus importante. Donc, 51, en gros, ce qu'on voit, c'est l'île de Montréal, l'île Bizarre, une partie de l'île Jésus. Je vais essayer d'utiliser mon pointeur. Ça irait mieux. Alors, ici, la partie de l'île Jésus et l'approche Rive-Sud, finalement, qui inclut l'ancienne ville de Longueuil. En 61, on voit que toute l'île Jésus fait dorénavant partie de la région métropolitaine et qu'une bonne partie de la Rive-Sud aussi est couverte et une partie de la péninsule Vaudreuil-Soulanges qui se trouve à l'ouest. 71, encore là, ça vient capter des territoires municipaux de plus en plus grands. Et finalement, 96, excusez-moi, les lignes ne se superposent pas tout à fait parfaitement. Il y a un peu de... Mais alors, on voit que la région a pris une expansion quand même substantielle entre les années 51 et 96. Et c'est pourquoi, dans l'ouvrage, on met l'accent sur cette période-là, notamment sur le processus de suburbanisation qui prend une envergure inédite au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce que la banlieue? Maintenant, je vais vous présenter quelques archétypes des réalisations nord-américaines et des exemples montréalais. C'est vraiment un survol, c'est juste pour vous donner quelques idées. Finalement, mon objectif, c'est de passer comme message que la banlieue, on a tous un peu une image clé de ce que ça représente, à savoir l'habitat pavillonnaire, donc la petite maison entourée d'une pelouse, avec un stationnement qui loge une famille, qui se retrouve en périphérie dans des zones qui sont monofonctionnelles, donc l'image de la banlieue dortoir. Mais la banlieue, historiquement, est beaucoup plus complexe que ça, selon les contextes aussi, les pays. On ne parle pas de la même chose, ça ne décrit pas la même réalité. Donc, c'est juste pour vous rappeler quelques archétypes des types de banlieues qu'on retrouve en Amérique du Nord et aussi des exemples montréalais. Donc, un des premiers archétypes qu'on peut identifier, c'est celui justement de la banlieue résidentielle qui est vue un peu comme un refuge, là où on va se réfugier après une journée de travail, ou une enclave pittoresque. Un exemple qui est devenu une espèce de modèle qu'on a essayé de reproduire à plusieurs endroits est celui de Llewellyn Park, qui est au New Jersey, en fait, dans la grande banlieue de New York, qui a été constituée en 1857. Donc, ce qu'on voit là, bon, c'est un plan où on voit que c'est un lotissement avec des immenses terrains. Des éléments importants sont les suivants. L'omniprésence de la nature, ça aussi, quand on parle de banlieue, on pense souvent à verdure, nature, pelouse, arbres, ainsi de suite, espace. Des rues sinueuses, donc qui est souvent en rupture avec la grille de rue typique d'une ville, à savoir une grille de rue orthogonale. Là, c'est plutôt des chemins sinueux qui épousent un peu les contours de la topographie. Donc, beaucoup de verdure, un réseau de parcs, des grands lots aussi. Donc, ça, c'est une ville de banlieue qui a été constituée, qui était reliée à New York par le réseau ferroviaire et qui est devenue un espèce de modèle que plusieurs promoteurs ont tenté d'imiter dans différentes régions métropolitaines nord-américaines. Un autre modèle aussi, alors ça s'adressait essentiellement à des ménages cossus compte tenu de la taille des lots, la dimension des maisons qui y étaient construites. Mais ce n'est pas seulement que les ménages cossus ou la classe moyenne supérieure qui a réussi à réaliser son rêve d'habiter dans un milieu suburbain. Il y a aussi la classe ouvrière qui a été logée en banlieue, et ça très tôt. À Montréal, par exemple, on pense aux anciennes villes de banlieue comme Saint-Henri, qui était une ville indépendante pendant longtemps. Donc, c'était quand même un milieu ouvrier populaire. Donc, c'était quand même une ville de banlieue. Donc, ça ne fait pas seulement que référence à une classe sociale supérieure. Donc, ici, un exemple à Chicago avec des petits pavillons, donc quand même une forte densité, mais il y a toujours l'idée que la maison doit être idéalement détachée. Donc, l'idée du pavillon est quand même présente. C'est à proximité des anciens abattoirs où travaillaient les gens qui vivaient dans les quartiers résidentiels à proximité des abattoirs. Et à ce moment-là, les distances étaient assez courtes entre les lieux de travail et d'habitation, ce qui fait en sorte que les gens se déplaçaient essentiellement à pied. Donc, toute la question des modes de déplacement est très importante aussi pour comprendre l'évolution des types de banlieues. Souvent, c'est d'abord ferroviaire ou à pied, ensuite le tramway, éventuellement la voiture individuelle. Parlant du tramway, justement, un autre modèle, c'est celui de la streetcar suburb. Ici, c'est un exemple au New Jersey. Un type de ville qui s'est développé d'une manière intensive entre les années 1890 et 1920 avec la présence d'entreprises privées qui offraient le service public de transport en commun, donc de tramway. Et souvent, les propriétaires de ces lignes de tramway étaient aussi des promoteurs immobiliers, achetaient des lots, les vendaient. Donc, c'était une espèce de système qui faisait en sorte que c'était très profitable d'installer une ligne de tramway parce qu'on savait qu'elle allait avoir des utilisateurs car ces gens-là s'y installaient à proximité. À Montréal, il y a plusieurs villes qui sont développées autour des lignes de tramway. On peut penser notamment à Parc Extension, un secteur du centre-nord de l'île de Montréal, ou encore Rosemont. J'ai deux collègues qui travaillent sur ces questions-là pour le projet d'histoire régionale, sur les questions d'immigration et la présence des immigrants dans les banlieues planifiées avec les tramways après la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, la banlieue de l'automobile, qui correspond sans doute à l'image type qu'on a de la banlieue pavillonnaire, avec l'exemple de Leviton dans l'État de New York, de la famille Levitt, qui était un groupe de promoteurs très important, qui a loti comme ça des milliers de terrains, et avait un petit modèle de maison assez standard, très abordable, et qui s'est vendu d'une manière très importante. Et ça, bien sûr, accessible essentiellement ou strictement en automobile. Donc, si on regarde dans la région de Montréal, je n'ai pas le temps de faire la nomenclature de toutes les villes de banlieue et d'identifier soit des types et ensuite prendre des exemples pour les expliciter. Mais juste pour vous rappeler rapidement que la région métropolitaine de Montréal comprend une diversité de types de milieux. Alors, on retrouve, par exemple, les banlieues résidentielles bourgeoises. Bon, on pense tout de suite à Westmount, à Outremont. Certaines sont toujours autonomes, d'autres ont été intégrées à la ville de Montréal. Les banlieues industrielles, c'est-à-dire où on retrouve de zones importantes d'emploi avec des secteurs d'habitation aussi, comme Maisonneuve, McMasterville, qui est sur la rive sud, où il y a toujours une importante entreprise. Montréal-Est, on sait que c'est une ville où il y a un secteur d'emploi industriel très, très important avec un petit secteur résidentiel. Les streetcar suburbs, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi inclure là-dedans la municipalité, l'ancienne municipalité de Saint-Louis-du-Milan, qui fait aujourd'hui partie du plateau Mont-Royal. Les banlieues spontanées ou autoconstruites, je vais vous montrer des images. Je fais référence ici à la municipalité de Jacques-Cartier sur la Rive-Sud, qui fait aujourd'hui partie de la ville de Longueuil, mais qui a longtemps été une ville indépendante qui a été intégrée à Longueuil. Ceux qui connaissent bien la Rive-Sud ont sûrement des souvenirs de Jacques-Cartier. Ensuite, la banlieue résidentielle planifiée, celle sur laquelle je vais me concentrer dans la deuxième partie. Dans l'île de Montréal, il y a Mont-Royal, qui est vraiment donc une banlieue aménagée à partir d'un plan d'ensemble qui est suivi d'une manière assez stricte, avec une grille de rue particulière. Donc, Mont-Royal, Hampstead, un secteur de la Rive-Sud, qui est l'ancienne ville de Préville, a été aménagé aussi avec un plan d'ensemble. Et les trois villes qui m'intéressent, Candiac, Lorraine, Brossard. Et ensuite, on retrouve de plus en plus ce qu'on appelle maintenant les banlieues complètes. Bon, Gilles en a parlé. C'est des milieux de vie, en fait, qui combinent l'habitation, des services, des lieux d'emploi. Si on pense à Ville de Saint-Laurent, avant que ça soit intégré à la Ville de Montréal, c'est un endroit, après le centre-ville de Montréal, qui concentre le plus gros pôle d'emploi de la région métropolitaine. Donc, c'est pas seulement qu'une banlieue dortoir où les gens vont dormir, mais c'est aussi un lieu où on travaille et où il y a une série d'activités, notamment commerciales. Montréal-Nord rentre dans cette catégorie-là aussi, partiellement, Anjou et Saint-Léonard. Donc, quelques photos de la banlieue résidentielle planifiée, juste pour vous donner un peu des images à quoi je fais référence. Donc, Hampstead, surtout développé entre les années 1930 et 1950, avec des maisons assez cossues, donc avec une réglementation d'urbanisme qui exigeait une taille minimale à la fois des lots, des constructions aussi, des matériaux à utiliser pour s'assurer qu'il y ait un certain niveau de standard qui soit respecté. Ensuite, un autre phénomène qui est assez important dans la région de Montréal, c'est tout le phénomène de la résidence secondaire ou de la villégiature. Compte tenu de la géographie particulière de la région de Montréal, avec l'omniprésence des rives, des rivages, bon, il y a le fleuve, mais il y a aussi la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles. Alors, tous ces secteurs-là vont être d'abord colonisés par le phénomène du chalet ou de la résidence secondaire. Et petit à petit, les gens vont s'y établir sur une base permanente. Donc, ça va finalement devenir partie intégrante de la région métropolitaine. Donc, la question de la villégiature a joué un rôle important aussi dans la croissance suburbaine montréalaise, avec des exemples ici de Sainte-Rose, qui est un ancien lieu de villégiature dans l'île Jésus. La banlieue autoconstruite, ça fait plutôt référence au fait que ce ne sont pas des promoteurs qui vont lotir des terrains et construire des maisons où les ménages vont venir s'acheter une maison qui a été déjà construite par un promoteur, mais c'est plutôt le phénomène d'autoconstruction, c'est-à-dire des ménages souvent qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vont s'acheter un lot. Dans le cas de Jacques-Cartier, ce qui était assez particulier, c'était des lots qui n'étaient pas desservis nécessairement par les services publics, donc pas d'aqueduc, pas d'eau potable. Et les gens construisaient eux-mêmes leur petit pavillon et éventuellement l'agrandissaient. Donc, la ville a été créée comme municipalité autonome en 1947 et elle a été intégrée à Longueuil en 1969. Ça, ce sont deux photos contemporaines des anciens petits pavillons de Jacques-Cartier. Quand on circule dans les rues aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une certaine densité, des très petits lots, une diversité de maisons, mais c'est des maisons qui ont été beaucoup transformées, mais on peut reconnaître derrière les transformations récentes des petits pavillons, finalement, qui étaient construits sans doute d'une manière, sur une base individuelle, par les ménages. La banlieue complète, deux exemples, Gilles a montré des photos ou des cartes du déploiement des parcs industriels en banlieue après la Deuxième Guerre mondiale et dans le cas de Montréal, surtout dans les années 1960. Donc, l'exemple de Pointe-Claire avec son parc industriel, avec des nouvelles entreprises qui sont délocalisées, qui sont plus à proximité des anciens axes de transport clés comme le canal de la Chine ou les voies ferrées, mais qui choisissent plutôt une implantation à proximité du réseau autoroutier. Donc, dorénavant, le transport des marchandises se fait par voie de camionnage. Donc, juste pour vous rappeler, en fait, qu'il y a différentes trajectoires que la suburbanisation exprime, mais ces trajectoires-là ne sont pas mutuellement exclusives. Typiquement, quand on regarde d'une manière très synthétique comment se sont constituées les villes de banlieue dans la région de Montréal, une première trajectoire ou un premier processus qu'on constate, c'est celui que la ville, la nouvelle ville de banlieue, va souvent être issue d'un noyau villageois, qu'on a à penser, à, par exemple, sur la rive sud de Montréal, qu'on pense à Belle-Oeil, à Saint-Hilaire, et même dans l'île Jésus. Bon, toutes les anciennes municipalités, habituellement, étaient rattachées. Il y avait un noyau paroissial qui existait, donc une municipalité de village et une municipalité de paroisse. Et lors de la fusion de ces deux types de municipalités, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on constate qu'historiquement, il y a eu énormément de fusions de municipalités de village et de municipalités de paroisse, qui est un territoire plus grand, souvent agricole. Et à partir de ce moment-là, le statut de la localité change, ça devient une municipalité de ville, et c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile pour les édiles municipaux d'emprunter l'argent nécessaire à la construction des infrastructures et d'y permettre l'installation de nouveaux ménages, de nouvelles entreprises. Donc, énormément de municipalités dans la région de Montréal qui se sont constituées de cette manière-là, en fusionnant, en étant nées de la fusion de municipalités de paroisses et de villages. Bon, Pointe-Claire, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Bruno, Chambly, La Prairie, Belle-Oeil, ainsi de suite. Alors, on a tous en tête le noyau villageois ou paroissial d'une ancienne localité qui fait souvent partie d'une ville de banlieue. Alors, on sent qu'il y a une histoire plus ancienne que la partie plus récente. La banlieue industrielle, j'en ai un peu parlé. Ensuite, la banlieue ferroviaire aussi, donc l'importance d'un lien ferroviaire vers la ville-centre. Plusieurs villes se sont développées grâce à la présence d'un axe de transport ferroviaire, comme Mont-Royal, Saint-Lambert aussi, avec la présence ou la proximité du pont Victoria. Et dans l'ouest de l'île de Montréal, tout le chapelet de villes qui longe le lac Saint-Louis est desservi par le chemin de fer. Ensuite, bon, je l'ai mentionné, la question de la transformation des résidences secondaires. Il y a beaucoup de villes de Montréal, dans l'île de Montréal ou dans la région qui sont nées finalement, de villes de banlieue qui sont nées d'abord de la villégiature. Et ensuite, la présence aussi de villes de promoteurs, des villes où ce sont des agents économiques qui avaient des stratégies très explicites d'attirer des ménages. Donc, en faisant de la promotion, en achetant des lots, les vendant et en construisant des maisons. Maisonneuve étant la plus connue, qui a été très bien étudiée par Paul-André Linteau. Donc, bilan, qu'est-ce que la banlieue? Première chose qu'il faut retenir quand on parle de la banlieue, c'est un tissu urbain, une forme d'aménagement, mais c'est aussi une indépendance institutionnelle, c'est-à-dire c'est une ville autonome. Quand on parle d'une ville de banlieue, habituellement, c'est une ville qui est distincte, qui est sur le plan institutionnel, de ce qu'on appelle la ville-centre ou la ville principale. C'est aussi un aménagement spécifique avec des rues curvilignes en anse, en cul-de-sac. Mais c'est pas, encore là, ce sont on peut retrouver ces éléments-là dans les villes-centres aussi, dépendamment de d'où vient, de comment s'est développée la ville-centre. Alors, les images clés, comme je vous ai présenté tout à l'heure au début, l'habitat pavillonnaire, donc une maison détachée, donc pas de mur mitoyen que les gens partagent, la présence d'un jardin, d'une cour, l'importance de la vie familiale, la séparation du travail aussi, c'est très important dans l'idéal suburbain, la tranquillité, la nature, la verdure, l'omniprésence des centres commerciaux comme lieu où on va faire ses achats, des parcs industriels. Donc, ce sont les images clés quand même qu'on rattache à la banlieue, et aussi l'importance des ménages propriétaires. Et ça, ces images-là, je vous les présente, ce sont des stéréotypes, mais il n'en reste pas moins que dans la réalité, c'est quand même encore présent de nos jours, et surtout à partir des villes sur lesquelles je me suis concentrée. Et juste pour vous donner une idée, quand on parle de banlieue, on parle d'un espace qui est en continuité spatiale avec la ville-centre, et qui n'est pas nécessairement, il n'y aura pas d'espace rural important entre les deux tissus. Alors que quand on parle du périurbain, habituellement, on parle plutôt d'un espace qui se développe à plus grande distance et qui va être en discontinuité spatiale avec la ville-centre. Donc, ce sont les images clés, mais ce qu'il faut retenir, on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais l'ouvrage va montrer ça, parce que je pense qu'il va y avoir des chapitres intéressants sur tout le processus de suburbanisation, c'est que le portrait est très complexe, et ça vaut la peine d'aller dans le détail pour mieux le comprendre. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le chapitre pour lequel je suis responsable, c'est d'examiner plus particulièrement l'exemple des banlieues planifiées qui sont situées à l'extérieur de l'île de Montréal. Alors, j'ai décidé d'aller voir un peu à l'extérieur de l'île de Montréal. Et ici, une photo de la ville de Brossard, qui était nouvellement constituée au début des années 60, et du pont Champlain. Donc, ceux qui fréquentent un peu le pont Champlain, vous savez que cette image-là est complètement transformée. Alors, tout ce qu'on voit en avant-plan maintenant, c'est construit entièrement. Alors qu'au début des années 60, c'était toujours des terres agricoles. Alors, ce que je cherche à faire avec cette exploration, c'est de mettre en lumière la nouvelle vague de suburbanisation dans la région de Montréal à partir des années 50, et en particulier à l'extérieur de l'île. Mon objectif, c'est donc de saisir la diversité des types de municipalités qui sont alors constituées en examinant en particulier les villes de banlieue planifiées. Et pourquoi? Parce qu'elles sont relativement rares. Alors moi, je ne suis pas allée avec, je prends le modèle dominant ou ce qui existe, le plus important, je me concentre là-dessus. Je suis plutôt allée chercher quelque chose qui était relativement rare ou exclusif. Alors, pour les critères que j'ai définis pour les sélectionner, je voulais des villes donc situées à l'extérieur de l'île et aussi des municipalités qui sont fabriquées ex nihilo, c'est-à-dire qui ne sont pas nées d'un ancien noyau villageois ou paroissial. Alors, je voulais vraiment un territoire qui est apparu comme ça un peu en plein champ autour d'aucun ou un établissement déjà existant. Donc, c'est une municipalité qui va être née d'un détachement d'une section de territoire, donc des terres agricoles qui sont détachées pour créer une nouvelle municipalité. Une ville qui a connu une expansion après la Deuxième Guerre mondiale et une municipalité aussi qui a maintenu ou, avec la vague des fusions auraient recouvré son autonomie. Donc, les villes qui correspondent à ces critères-là sont quand même assez limitées. Il y en a trois. Alors, il y a la ville, vous allez me dire, la ville de Brossard est une ville planifiée, mais je vais vous dire oui. Alors, ça s'appuie sur un plan d'ensemble, mais les choix urbanistiques sont quand même prédéfinis. La ville de Candiac, qui est aussi sur la rive sud, et la ville de Lorraine. Alors, j'ai quelques données. Vous voyez que ce sont des villes à Brossard qui est quand même assez importante en termes de taille démographique, avec plus de 70 000 habitants. Les autres sont de beaucoup plus petite taille, 15 000 ou presque 16 000 et à peu près 10 000 habitants. Autre élément important, juste pour vous donner un peu une idée du portrait démographique, sur la population immigrante, Brossard est connue quand même pour être une ville de banlieue où il y a une importante population immigrante, en fait, plus que dans la ville de Montréal. Mais pour les deux villes, Candiac et Lorraine, c'est quand même beaucoup plus faible, là, autour de 7 %, ce qui est largement en dessous de du pourcentage du Grand Montréal. Donc, qu'est-ce qu'une banlieue planifiée? C'est une ville qui est réalisée à partir d'un plan d'ensemble qui va être élaboré par des promoteurs immobiliers ou par une municipalité. C'est un espace qui reflète aussi la quête d'une cohérence urbanistique et architecturale. Cet élément-là m'intéresse en particulier. Et ensuite, c'est un milieu où il y a une certaine vision de la nature qui va être élaborée. Et c'est un milieu où on retrouve une très forte séparation des fonctions dans l'espace. Donc, ce n'est pas un milieu urbain où il va y avoir une proximité des commerces, de l'habitation, des zones d'emploi, mais vraiment une très forte séparation des différentes fonctions urbaines dans l'espace. Et c'est une ville qui se retrouve typiquement à proximité des grands axes de transport, qu'ils soient ferroviaires, mais surtout autoroutiers dans le cas qui nous intéresse. Je me suis beaucoup appuyée sur les travaux d'une chercheure américaine, une historienne de la ville, Mary Corbin-Size, qui a publié un article en 1997 qui porte justement sur la persistance. Je pense que cette notion de persistance, on parle toujours beaucoup de transformation, de changement, mais il y a des choses étonnamment qui changent peu. Alors, je me suis intéressée à voir qu'est-ce qui changeait peu dans la région de Montréal et pourquoi. Donc, cette idée de persistance, et en particulier des banlieues planifiées qui s'adressent à une clientèle quand même assez huppée. Donc, d'après elle, il y a quatre composantes interreliées qui va expliquer la persistance d'un environnement résidentiel suburbain. Donc, c'est quoi la persistance? C'est un milieu qui va toujours maintenir un certain statut socio-économique. Et l'historienne en question s'est intéressée à des villes de banlieue planifiées à compter de la fin du 19e siècle jusqu'au début des années 1930. Donc, c'est sur une période un peu plus ancienne, mais je pense que son analyse ou son cadre analytique s'applique tout à fait aux villes sur lesquelles je me suis concentrée. Donc, les promoteurs, habituellement, ils vont faire un choix d'emplacement très judicieux. Alors, on recherche un climat sain, on cherche à être du bon côté des vents dominants. Autrement dit, si la pollution vient d'un côté, on s'assure d'être de l'autre, de ne pas en subir les effets négatifs. D'un endroit où il y a des qualités paysagères particulières, soit des éléments de la nature comme la présence d'une rivière, d'une vallée, de collines, ainsi de suite. Une localisation riveraine, un espace qui est suffisant pour mener des activités récréatives, et un accès facile à la ville-centre. Et une banlieue planifiée est aménagée aussi à partir d'un plan d'aménagement d'ensemble où la grille de rue, le lotissement, donc la forme des terrains, des lots, l'implantation des bâtiments, leur recul par rapport à la rue, l'espace qu'ils prennent sur le lot, et le recours à une forme d'esthétique uniformisante. D'un point de vue architectural, on va s'assurer qu'il y a une grande uniformité dans les matériaux, dans le format des maisons, les formes de toiture, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est prévu dans le plan d'urbanisme. Et un endroit où les services publics sont de qualité. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'assurer une très grande cohérence urbanistique pour s'assurer que le milieu maintienne donc, son caractère matériel, mais aussi son niveau, disons, socio-économique. L'autre élément, c'est la mise en forme d'un cadre réglementaire municipal qui est très restrictif et qui s'adresse à l'environnement bâti. Ensuite, un autre élément qui va expliquer que ces milieux-là, c'est possible d'en aménager, c'est que ça prend une forme de consensus collectif. Il faut que les gens qui habitent dans ces milieux-là acceptent de subir les contraintes urbanistiques et pour s'assurer que le milieu ne se transforme pas d'une manière aléatoire et pour maintenir la qualité de l'environnement résidentiel. Donc, ça repose sur l'idée que certains éléments doivent être exclus du milieu de vie. Donc, l'historienne a aussi relevé un certain nombre de facteurs de réussite. La présence d'un seul grand propriétaire foncier, ce qui permet de bien contrôler l'aménagement d'un secteur, et donc le nombre limité de promoteurs. Une forme d'autonomie politique et financière, donc les banlieues résidentielles vont souvent être des municipalités indépendantes, ça reste important, et aussi l'appui volontaire des habitants, comme j'ai mentionné. Oui. Alors, les banlieues à Montréal, celles que j'ai regardées, ça, on peut passer, j'avais gardé les chiffres. Alors, Brossard, là, je fais vraiment juste un petit portrait rapide. Constitué en 1958, l'ouverture du pont Champlain en 1962, c'est sûr, va créer un boom démographique. C'est une ville qui va être agrandie à quelques reprises par l'intégration de sections de localités. Et c'est une ville aujourd'hui qui a une certaine autonomie fonctionnelle. On peut vivre, tout faire à Brossard sans en sortir. Il manque seulement qu'un hôpital, je crois. Mais on retrouve de tout aujourd'hui. Donc, sur l'image que vous avez ici, on voit bien qu'il y a quand même une grille de rue curviligne. Là, ce n'est pas une grille de rue urbaine. Et ici, la proximité des axes autoroutiers. Je ne sais pas dans quel sens me mettre. Ceux qui connaissent un peu le secteur, bon, le quartier 10-30 qui est en plein développement, la présence d'un nouveau parc ici, d'immeubles de bureaux, et le secteur L dont je vais vous montrer des photos. Alors, Brossard s'est développé secteur par secteur, et chaque secteur commence, les noms de rue commencent avec une lettre, ceux qui sont un peu familiers avec Brossard. Là. Donc, il y a vraiment. Quand on se promène dans le territoire, on sent bien les différentes périodes de développement, parce que le cadre bâti est uniforme selon les phases de développement. Des exemples ici du cadre bâti résidentiel avec les différents types d'habitations, donc le split level typique des années 60, certaines densifications à partir des années 70 avec des logements collectifs et depuis une dizaine d'années, une présence de plus en plus importante de copropriétés de condos. Ce qui est intéressant à Brossard, c'est la présence des lieux de culte. Dans les deux autres banlieues que j'ai étudiées, à ma grande surprise, il n'y a pas de lieu de culte. Alors, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de lieu de culte ni à Candiac ni à Lorraine. Brossard est une ville qui change rapidement depuis, entre autres, une vingtaine d'années. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la municipalité cherche quand même à maintenir son image de banlieue planifiée avec un lotissement récent, ce que j'ai appelé le nouveau Brossard ou les domaines de la Rive-Sud, où les principes d'un aménagement très contrôlé sont appliqués. Alors, il y a un devis technique qui a été réalisé. Ceux qui connaissent un peu, c'est le secteur L, avec des grandes maisons, des grands terrains. Alors, chaque maison qui est construite là est vraiment réglementée par des critères très sévères pour s'assurer une certaine homogénéité. Donc, encore là, on voit que Brossard change, mais on cherche à maintenir certains standards pour un secteur en plein développement. Lorraine, constituée en 1960, donc les trois villes que je regarde sont constituées à peu près à la même période, par des promoteurs privés, qui ont acheté des terres agricoles, qui ont fait un lotissement d'ensemble. Là aussi, il y a une réglementation très sévère en ce qui a trait à l'implantation du cadre bâti, la préservation des arbres. Les facteurs que l'historienne américaine, dont je me suis beaucoup inspirée, rappelle, sont présents. Par exemple, la proximité des axes de transport, aussi des limites très claires. Alors, la ville se retrouve de part et d'autre de l'autoroute 640, qui est ici. Mais si on regarde attentivement, on voit que la grille de rue n'est pas très perméable avec l'environnement immédiat.
Par exemple, ici,
on peut difficilement rentrer. C'est la ville de Bois-des-Filions qui se retrouve de l'autre côté, mais les accès sont quand même très limités. Donc, c'est une forme d'enclave résidentielle assez marquée dans l'espace. Et pour finir, c'est une ville où il n'y a pas de fil aérien, tout est enfoui, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'entreprise industrielle ni d'immeubles collectifs. Et ça, ce n'est pas permis par la réglementation d'urbanisme. Des exemples des habitations construites depuis les années 70. Ensuite, la dernière ville, Candiac, constituée en 1957 à la demande d'un groupe d'investisseurs canadiens. C'est intéressant de voir qu'il y a eu quelques villes comme ça vraiment développées par d'importants promoteurs immobiliers avec un plan d'urbanisme d'ensemble tracé en 57 qui est en bonne partie respecté. Mais ce qui est particulier à Candiac, c'est que la croissance démographique prévue n'a pas eu lieu. Donc, il faudrait voir avec Gilles où sont-elles, pourquoi ce secteur-là ne s'est pas développé, mais où on retrouve encore de nos jours d'importantes zones. Je vais vous montrer, j'ai un plan, oui, c'est ça. Alors, actuellement, il y a des projets immobiliers d'importance qui sont en développement, avec une maison récente et donc une population jeune qui s'y installe, beaucoup de jeunes familles qui demandent des services publics, notamment des nouvelles écoles. Alors, comment se distinguer? Je pense que j'ai fait le point là-dessus. Alors, pour terminer, les trois villes que j'ai étudiées, ce qui est intéressant en les comparant, c'est qu'on voit qu'elles vivent trois types de conditions particulières. La première, c'est qu'à Brossard, on voit bien qu'il y a quand même l'enjeu de la diversité ethnique qui change un peu le milieu, et la municipalité cherche de maintenir l'homogénéité dans une forme de diversité. Quand on va à Brossard, par le commerce, on peut voir qu'il y a certains lieux de culte qui ont une présence ethnique, mais ce n'est pas du tout visible dans le tissu résidentiel. Donc, on arrive à maintenir une certaine forme d'homogénéité de cette manière-là. Quant à Candiac, c'est une ville qui est relativement jeune, avec beaucoup de jeunes familles, puis qui a des aspirations quand même assez traditionnelles. Donc, ça évoque un peu l'idéal suburbain tourné autour de la vie familiale. Enfin, Lorraine, c'est vraiment l'accomplissement d'un idéal qui est élitaire, anti-urbain. Quand on lit les documents sur Lorraine, on voit bien qu'on veut vraiment se détacher, se distinguer de la ville. Et ça passe par le biais d'une forme d'esthétisation du cadre de vie. Tout est bien contrôlé, réglementé. Pour conclure, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la notion de persistante est importante en ce qui a trait à l'idéal de la banlieue résidentielle planifiée. Donc, il y a une persistance, et ça, même si on le sait qu'aujourd'hui, depuis quand même une cinquantaine d'années, les modes de vie ont beaucoup changé et les structures familiales aussi. Mais il y a quand même une persistance dans l'idéal de la banlieue résidentielle. Les caractéristiques physico-spatiales sont importantes et la réglementation d'urbanisme contribue à définir des milieux de vie distincts. Donc, c'est important aussi de comprendre, d'aller au-delà juste de la description, mais de bien lire des documents d'urbanisme, et on voit comment ça peut refléter une forme de quête d'un idéal suburbain. Et dans les cas que j'ai étudiés, l'institution municipale, donc la municipalité, est un instrument très important de distinction. Et ça reste une instance où on peut relayer des valeurs spécifiques, à condition, bien sûr, que les normes soient maintenues et redéfinies. Donc, il y a toujours un processus de réaffirmation de certains règlements, de certaines normes, parce que les gens changent, il y a des nouvelles populations qui arrivent, mais si on veut que le milieu soit maintenu, il faut toujours réactualiser ces normes-là. Voilà, ça complète ma présentation.
Merci, Mme Poitras. Il est 20h30 ou à peu près, donc nous avons une demi-heure. S'il y a questions ou commentaires à nos deux auteurs, je vous inviterai à vous déplacer pour qu'on puisse bien entendre vos questions ou commentaires, qui, si possible, peuvent être assez succincts.
Vu l'évolution de Ville-Lorraine puis de la banlieue, disons que vous avez fait une description, mais en termes de réflexion, là, c'est une réflexion avec des lunettes roses. Tu sais. En termes, au niveau environnemental, au niveau du transport, combien que ça peut coûter les embouteillages à tous les matins, en termes de pollution atmosphérique, de déficit démocratique dans les banlieues qui sont... dans les mains des spéculateurs. En termes d'espace vert, là, y a pas tout est détruit. Chaque pied carré, c'est des bungalows presque à Blainville. Il y a quand même des petits espaces à Ville-Lorraine, mais c'est parce qu'il y a des groupes de citoyens qui s'en occupent, parce que ça serait rien que des élus, des fonctionnaires et des contracteurs, il n'en resterait plus. Fait que j'aurais aimé, moi, une vraie réflexion avec un vrai bilan. Parce qu'à tous les matins, c'est bloqué, avec aussi une vision d'avenir. Tu sais, ça a été complètement escamoté. C'est la vision d'expansion au niveau comme une galaxie. C'est une anarchie irrationnelle qui va à l'encontre du gros bon sens. Tu sais, ça détruit les zones agricoles. Ça éloigne les espaces verts.
Pardon, monsieur, OK, donc votre bilan n'est pas très rose, effectivement.
Bien, pour avoir... Puis aussi, okay, les gens qui habitaient là, avant qu'ils arrivent ces banlieues-là, ils ont été expropriés, ils ont été surtaxés, ça s'est gentrifié. Okay. Ils ont perdu leur qualité de vie, fait tasser comme des propres à rien. Puis ça, il n'y a jamais un mot là-dessus. La pollution, combien ça coûte de faire
Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, merci. Madame Poitras, donc, peut peut-être répondre, mais pour maintenant, ce qui était ici, c'était faire le bilan de l'évolution. On peut peut-être aller plus loin pour poser un diagnostic par là-dessus. Est-ce que Madame Poitras veut répondre?
Je vois pas comme quelqu'un portant des lunettes roses. Je suis tout à fait consciente des problèmes dont vous parlez, mais...
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Non, mais c'est que mon objectif est de comprendre historiquement comment ces choses-là se sont mises en place et sans porter de jugement normatif sur on aurait dû et ça devrait. C'est juste une question de perspective.
S'il vous plaît. Moi, j'oserais dire que, bon, à mon titre d'animateur, le propos ici n'était pas « voici, nous faisons le bilan ou le coût de la croissance », mais beaucoup plus « quelle est l'évolution ou comment le territoire s'est développé depuis les 50 dernières années ». On pourrait, d'une autre façon, une autre fois peut-être, ou même encore là, mais d'une façon plus posée, se demander quels sont les coûts associés à ça. Mais pour l'instant, ce qu'on a eu, c'est un panorama du type d'évolution qu'on a assisté. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou des questions?
Oui. Dans la première présentation, vous avez parlé à la fin, il y a eu un repli des traversées qui se font de la banlieue vers l'île. Vous avez dit que ça commençait peut-être à diminuer. Est-ce que c'est parce qu'il y a juste moins de monde qui traverse les ponts et prennent le transport en commun parce qu'il y a plus d'emplois dans les banlieues ou tout simplement parce qu'il y a un repli sur les ponts seulement? Les gens continuent à traverser quand même, mais autrement que par les ponts ou c'est vraiment parce qu'ils trouvent un emploi ailleurs que sur l'île et peuvent rester à l'extérieur de l'île?
Bon. Quand on regarde les données sur les traversées vers Montréal, vers l'île de Montréal, on voit que la courbe est ascendante longtemps. Elle est, elle commence à se tasser vers le milieu vers 2005. On a déjà essayé de reconstituer année après année. Il faut savoir que c'est des données difficiles, hein. Et par exemple, le ministère des Transports, juste une parenthèse, ne compile plus les données sur les ponts dits fédéraux. Il faut aller, là, la Société du Havre, des ports et des ponts, là. Eux, ils arrondissent les chiffres. Donc, on sait plus, on n'est pas dans le même univers de données, mais en tout cas. Mais ce qu'on voit, donc, c'est une baisse. On peut y voir plusieurs raisons. Qu'on peut poser comme hypothèse. Dans la réalité, ce qu'on voit, on sait que l'emploi, l'emploi en périphérie a continué de croître. Il y a beaucoup d'emplois en périphérie. Les activités qui amènent des déplacements, tantôt je parlais des cinémas, le commerce, les places commerciales, la nécessité de venir sur l'île a baissé, hein, est moindre. Parallèlement à ça, donc, il s'est construit des vrais milieux de vie. Moi, je voudrais dire une chose, le monsieur, c'est dommage, il est parti. C'est vrai ce qu'il dit, mais en même temps, les milieux qui se sont constitués maintenant, c'est des vrais milieux de vie. Donc, ces vrais milieux de vie-là font en sorte que beaucoup des activités qui, pendant des années, étaient captées par le centre ne le sont plus. Les grandes institutions restent au centre, les milieux des affaires, mais pour beaucoup d'activités banal et même des activités spécialisées, vous êtes en périphérie, en banlieue, hors l'île de Montréal, et vous pouvez combler à peu près tous les besoins. Le dernier point que je veux dire, c'est, prenons un exemple simple. C'est si la personne qui veut aller voir un spectacle assez commun, un humoriste, il va trouver une salle pas loin de chez lui. L'idée de venir le voir au Théâtre Saint-Denis, c'est vrai, puis c'est moins vrai. Donc, cette densification, puis en même temps la diversification des milieux, en même temps, il y a certainement eu une offre de transport en commun légèrement améliorée pour les trains de banlieue. Ça peut justifier ça, mais je crois qu'on la voit. Maintenant, l'idée de planifier là, une hausse de la demande autoroutière me semblerait inappropriée.
Question, je veux juste savoir pourquoi Montréal s'est agrandi. Vous parlez de Lorraine, vous parlez d'un peu partout dans les banlieues comme ça. Je me demandais pourquoi Montréal s'est agrandi. Et est-ce que c'est vrai qu'il se posait d'avoir un train qui veut le faire agrandir jusqu'à Terrebonne? Alors, je me demandais si c'était vrai.
En principe, les trains sont planifiés lorsqu'il y a une demande. Donc, les gens sont déjà rendus à l'endroit où on va les desservir. Mais Pourquoi? Il y a un chiffre que j'ai pas dit. Lorsqu'on regarde la démographie, de 66 à 2006, il y a 1 million de personnes de plus dans la région métropolitaine. Donc, ces 1 million de personnes-là devront trouver à se loger. Pourquoi ça s'est agrandi? Alors, pourquoi, par exemple, les industries manufacturières dans les années au début du siècle se sont installées sur l'île, le long du canal, des voies ferrées, puis après, c'est sûr que le bâti industriel ne correspondait plus aux besoins des années 60, 70. Donc, il y a eu une délocalisation de l'emploi et des personnes. Peut-être vous pourriez préciser votre question.
Vous voulez dire en termes de croissance physique, d'expansion physique ou juste de croissance démographique? Parce que la question de la croissance démographique, dès les années 1920, au Canada, on voit qu'il y a une très forte concentration et croissance dans les grandes régions métropolitaines, ce qu'on appelle la métropolisation, notamment la concentration des populations dans la région. Ça, on voit ça partout au Canada, en Amérique du Nord, et c'est visible dès les années 1920. Et cette tendance-là, c'est poursuivie depuis...
Okay.
Mais est-ce que vous parlez de la croissance physique, c'est-à-dire l'extension physique? Ou?
Bien, pour la croissance démographique.
C'est que la carte que j'ai montrée, entre autres, où on voit que la région s'agrandit, c'est basé sur une conception statistique d'une croissance, c'est-à-dire à partir du moment où un habitant dans un secteur donné se déplace pour aller travailler, bien, il rentre. Autrement dit, la région métropolitaine, les gens vont habiter toujours de plus en plus loin, où les lieux d'emploi se déplacent, donc il y a une restructuration, ce qui se fait des déplacements liés au travail. Et donc, la région statistique s'agrandit.
Donc, OK. Alors, c'est pour la démographie, pour Montréal. C'est oui. Pour qu'ils s'agrandissent.
Mais en fait, si je peux dire aussi, avec l'accroissement de population, on est sur l'île en 1850, c'est un exemple. Fait, la population qui a augmenté, au lieu de monter en flèche comme une tour, elle va s'étirer comme ça. Ça, il y a toute une série d'éléments. C'est à un moment donné, le coût des sols, les gens veulent avoir une maison plus grande, sont prêts à faire plus de transport pour aller se loger qu'habiter au centre-ville. Ça peut être un élément. Il y a aussi le choix du consommateur, si on peut appeler comme ça des gens qui choisissent une maison. Il y a des gens qui croient à l'idéal tel qu'on l'a montré aussi. On n'en parle pas vraiment, mais il y a quelque chose qui existe qui s'appelle l'opposition entre la ville et la banlieue. On a vu aussi un exemple tout à l'heure. Je pense qu'il y a une série d'éléments comme ça, mais il y a aussi le portefeuille de l'individu. On va encore parler aujourd'hui à des gens qui vont dire « j'aimerais être en ville, mais je vais avoir plus d'espace que d'être dans un 4,5 ». Il y a donc une série d'éléments qui fait qu'au lieu que l'île monte en tour, en hauteur, qu'elle va s'étirer comme ça, prendre plus d'espace. Mais c'est une série de facteurs. Puis avec ça, ben écoutez, c'est sûr que si on n'avait pas inventé la voiture, si on serait encore dans une ville de piétons, ben il y aurait une ville qui serait beaucoup plus dense qu'elle est aujourd'hui. La voiture, les autoroutes ont permis aussi d'aller plus loin encore.
OK, merci beaucoup.
J'ai une question. Moi, j'ai grandi à Laval, enfin à Laval des Rapides. Et puis quand il y a ces questions-là, justement, de ville... C'est que parfois les fusions sont. Il a fallu parfois que le gouvernement intervienne pour que les fusions se fassent. Et il y a toujours un rapport que souvent la ville qui est prospère ne veut pas se retrouver avec une ville qui est moins prospère. En tout cas, vous savez que vous avez parlé de ville Jacques-Cartier, mais on pourrait se demander si la dernière tentative de fusion a pas un peu raté. Vous savez, il y avait l'idée de faire une ville, une île sur Montréal, comme on avait fait pour Laval, et puis sur la rive sud. Ça a raté. Il voulait fusionner Longueuil avec Boucherville. Oui. Avec,
pour les mêmes raisons, les mêmes résistances qu'on a vécues à Laval. C'est-à-dire, à Laval, ça a eu lieu, là, mais pour les mêmes résistances, c'est sûr que les villes nanties voient toujours ça comme étant, bien, on va devoir payer pour les moins nanties, nous, on est bien gérés. Ce qui est
quand même comique, c'est qu'à Laval, en 65, Johnson était contre, qui est devenu premier ministre en 66. Il n'est pas revenu sur la décision, alors que c'était le PQ qui avait fait le projet de fusion, et Jarret est venu, puis comme on dit, si vous voulez défusionner, mais allez-y. Il y a eu toute cette vague de... Enfin, le cas de Saint-Lambert est un bon exemple. Ça fait un peu trop qu'ils ont diffusionné alors qu'ils sont vraiment collés sur Longueuil. Voilà.
Ben, vous avez remarqué qu'on a décrit, moi dans mon cas, j'ai décrit le pourquoi. Je pense que se prononcer, on peut y mettre des hypothèses. Il est certain que sur le plan démographique, les mises en chantier, On voit aussi sur les traversées des ponts entre Laval. Bon. Est-ce que c'est des villes qui sont en progression? On voit que l'emploi est aussi en progression, que le long des autoroutes, par exemple, le long de la 25, il y a là une concentration d'emplois manufacturiers. Il y a Mirabel qui est... Bon. Donc, l'emploi, le coût des terrains est faible. Ils ne sont pas très, très favorisés pour le transport en commun, mettons. Je ne sais pas, les hypothèses qu'on peut émettre tiennent des facteurs classiques. Le coût du sol, les politiques publiques, l'accès à la propriété, il y en a eu dans le passé. Les gens suivent l'emploi. Et il y a aussi, il faut savoir que les grands espaces... un promoteur qui veut accaparer un espace important, où il va trouver un territoire qui peut accueillir des projets majeurs? Il y en a de moins en moins sur la Rive-Sud. Il n'y en a plus sur l'île de Montréal. Il en reste moins à Laval. Donc, effectivement, la Couronne Nord, par exemple, Mirabel, c'est les derniers grands espaces pour des projets industriels. Si vous cherchez un grand terrain pour un très grand projet, Mirabel reste un des derniers sites potentiels. Sinon, il faut faire comme beaucoup font maintenant. Ils s'en vont vers Saint-Hyacinthe, Drummondville, là, pour les localisations d'emplois. Là, je déborde un peu de mon sujet. Moi, je ne suis pas dans ces domaines-là, mais il est clair que il faut mettre ensemble les questions d'emploi, de localisation industrielle et le dernier, le choix des ménages. Ça reste des personnes qui font le choix de se localiser dans une municipalité qui sera dans le domaine périurbain.
Oui, mais Longueuil, c'était Montréal-Sud avant. Donc, c'était plus intégré à Montréal. Pourquoi maintenant c'est Laval, la Pécôte, qui s'est de plus que Sud?
C'est la question du pourquoi. Je vous l'ai dit, moi, je pense qu'il faut vraiment les explorer. Il faut faire des études. Je peux me prononcer. C'est les mêmes raisons qui sont là. Mais je pense que sur la Rive-Sud, il y a moins de...
Le zonage agricole aussi, il faut voir. Là, il y a une protection des terres agricoles quand même. Il faut voir là où il y a des espaces qui sont prévus dans les plans d'urbanisme à être développés, là, où il y a des permis de construire qui sont possibles à obtenir, là, des endroits où c'est plus protégé. Pourquoi sur la Rive-Sud, il y a peut-être plus de protection du territoire agricole? Je ne connais pas dans le détail là, où sont les grandes zones protégées, mais il n'en reste pas à Saint-Bruno, où il y a encore de l'espace, Boucherville, mais il y en a peut-être moins d'espaces disponibles, prévus à des fins de développement qu'on retrouve, par exemple, sur la Rive-Nord.
La communauté métropolitaine de Montréal a fait un inventaire des espaces disponibles. Ça donne une bonne idée de où les projets de localisation peuvent se faire. Je pense que la Couronne Nord est favorisée, entre guillemets, là, si on peut être favorisé, parce qu'il y a encore un réservoir de terrain assez grand. Ça joue aussi sur les coûts.
Effectivement. Puis, si on regarde au niveau démographique au Québec, c'est la Couronne Nord, mais ça va aussi dans la Naudière. C'est vraiment toute cette zone-là. Puis, il y a aussi, ce que je ne suis pas un démographe, mais c'est sans doute des endroits qui font le plus d'enfants aussi. Donc, il y a un effet multiplicateur aussi. C'est des gens, quand ils deviennent en âge adulte, ils vont souvent faire le choix d'habiter là-bas parce qu'on a encore des familles avec 3 enfants ou même à l'occasion 4 enfants. Donc, on va souvent faire le choix d'habiter où est-ce qu'on est né, en fait, que plutôt aller à Longueuil, type d'exemple. Il y a cet élément-là aussi qui est très important. Les administrateurs publics, dans l'éducation, la santé, vous en parleront, le problème qu'ils ont avec une croissance telle, et dans d'autres régions du Québec, que ce soit la Côte-Nord, la Gaspésie, où est-ce que là, ça se vide littéralement. Donc, il y a une question démographique, tout simplement, aussi, outre la question industrielle.
Si je peux me permettre, le point que vient de dire Denis est important. Je pense que les jeunes ménages qui ont été le vecteur du mouvement de périurbanisation, qui sont attirés par des coûts moins élevés, les jeunes ménages trouvent sur la Couronne Nord et ce qu'ils cherchent, et ils ont des enfants, donc ils sont Je pense que ça favorise la croissance démographique. Ça reflète la croissance démographique qu'on voit.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, mais est-ce que je pourrais juste mentionner un détail qu'il ne faut quand même pas oublier de la rive sud? C'est construire un pont là, c'est toujours un travail plus énorme que sur la rive nord. Mmh. Juste le pont Victoria avait pris 5 ans à construire. Le Champlain, ça a pris 3 ans. Parce qu'il y a toujours l'élargement du fleuve. Il y a beaucoup de places qu'on peut construire des ponts disponibles. Alors que sur la rive nord, vraiment, la rivière des Prairies n'est pas tellement large. Alors, c'est sûr que c'est plus facile. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a quand même pas une contradiction d'avoir beaucoup misé sur la route et en même temps, on a laissé le train qu'on va essayer de ramener, si on pourrait dire. Il y a quand même un paradoxe. Quand moi, j'ai vu ça. J'habitais juste à côté de la traque. Elle a comme tombé en déclin. Là, on l'a ramenée un peu. Et là, en tout cas, il y a des promoteurs qui jouent un peu sur le fait qu'ils essaient de développer des secteurs en disant le train s'en vient, le train de l'Est, le train de l'Ouest ou tout ça.
C'est
ça.
C'est vrai, le développement, par exemple, commence à se faire le long des gares. Puis les prochaines gares du train de l'Est vont amener des projets immobiliers qui vont se structurer autour, c'est vrai. Même sur l'île de Montréal, hein, autour de la gare Pineuf, par exemple.
Madame?
Il y a du terrain.
Ah oui? Mais c'est tout habité. À Pineuf, puis les Célions-là.
Sur l'île de Montréal, vous parlez?
Oui, ben oui. Il parle de Pineuf.
L'arrondissement, en tout cas, planifie fortement le développement autour de ces secteurs-là.
Je ne sais pas où ils vont y mettre. Alors, peut-être qu'il faut faire des
en hauteur, oui.
Alors, ça, c'est des tours que vous allez trouver. C'est des tours qui vont faire ça.
Il va y avoir une forme de densification à proximité des gares, c'est ça l'idée. C'est de construire des gares. Bon, tout le West Island est quand même bien desservi avec les trains de banlieue, mais il n'y a pas énormément de densité. Mais maintenant, je pense qu'il y a des projets de transport où on tient compte de l'aménagement, bien, on veut densifier pour que ça soit vraiment profitable.
Madame?
Aucun de vous a parlé du facteur de l'immigration. Quand même, dans ces millions de personnes qui sont arrivées. Qui se sont ajoutés, des bébés, mais il y a aussi beaucoup de monde qui... des vagues migratoires qui se sont manifestées et qui ont donné, qui ont caractérisé certains développements. Je ne sais pas, là, vous avez parlé juste du monde comme s'ils étaient tous nés ici, là. Ça me paraît un peu bizarre, là.
Je vais me permettre, en tant que co-directeur du projet... Madame Poitras en a parlé juste un petit peu tout à l'heure, donné quelques chiffres. Nous avons un chapitre qui est dédié justement à l'immigration dans les différentes banlieues et la ville de Montréal, donc la participation, la présence des communautés culturelles ou ethniques dans la croissance, la construction de la ville. Mais aujourd'hui, on en parlait moins, effectivement. Mais Claire,
pour faire une précision, en fait, on n'en a pas parlé quand on parlait de la Couronne Nord, parce qu'il y en a très peu, là. C'est clair, là, je veux dire, les immigrants s'installent d'abord dans l'île, un peu sur la rive sud, mais d'une manière assez marginale. C'est beaucoup concentré dans l'île de Montréal, mais c'est sûr que ça a été un facteur contributif à l'expansion démographique dans l'île de Montréal, un peu à Laval, mais pas beaucoup sur dans la couronne nord. Et ça, c'est toujours d'actualité. Là. Quand on regarde les données, c'est très, très homogène. Ça reste très homogène sur la rive nord, la couronne nord.
Bien, là, je ne suis pas sûre pour les chiffres, là, parce qu'il faudrait regarder. Oui. Il y a une accumulation assez importante de présence immigrante. Je ne parle pas de communauté, là, hein? Je parle de présence de personnes nées à l'étranger dans la région, justement, dans la couronne nord. D'abord, ça s'est vraiment manifesté beaucoup à Laval, même si le maire ne voulait pas en parler.
Laval ne fait pas partie de la... La manière dont on définit Laval ne fait pas partie de la... C'est pour ça, là. C'est juste une question.
Mais pour la couronne nord, c'est un fait depuis au moins 15 ans. Donc, ça fait partie des 50 dernières années. Et ça m'apparaît être une des caractéristiques importantes. En tout cas, je vais lire votre chapitre avec plaisir. Merci.
Sans faux. D'autres commentaires, questions? Oui.
J'avais une question, en fait, peut-être plus pour conclure, à savoir, vous pensez quoi au niveau des... pour les prochaines années, vous ne voyez pas au niveau de l'expansion, de l'occupation du territoire montréalais?
Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Moi, je pense que... Écoutez, tantôt, Claire disait que Saint-Henri était une banlieue, ou Chalaga était une banlieue. C'est devenu des quartiers urbains. Anjou qui était une vraie banlieue construite dans un des modèles que Claire présentait, est maintenant un quartier urbain multifonctionnel où il y a beaucoup de monde avec des tours à condos. Justement, il y a une densification importante. Moi, je pense qu'autour de ces pôles qui ont été au départ des pôles commerciaux, qui deviennent des pôles multifonctionnels, où il y a beaucoup d'emplois, où il y a des types d'activités très variés. Donc, ce qu'on a appelé la banlieue avec une image de banlieue dortoir, et c'est fini. Je veux dire, ça existe encore, mais c'est vraiment où la croissance se fait, où le développement urbain se fait, c'est autour de ces pôles. Et c'est des pôles qui sont des pôles urbains. Et si on les disqualifie simplement parce qu'il y a un fleuve ou une rivière qui les sépare en disant « ça, c'est la banlieue, nous, on est sur l'île », je pense qu'on fait une erreur. C'est des vrais milieux de vie avec des vraies personnes qui sont en train de faire des vrais projets urbains. Ça n'empêche pas qu'il y ait des bois qui disparaissent, que des plaines inondables vont être occupées, qu'il y a des mauvais projets qui sont faits. Et je pense que, tranquillement, on va voir que le navettage vers le centre va diminuer. Je pense que c'était un peu ça l'idée de mon graphique de tantôt. Et qu'on aura ce qui est une vraie métropole, qui est composée de deux choses, je pense. Plusieurs centres, donc une polycentricité, et des milieux de vie qu'on associe à la périurbanisation, qu'on va considérer comme des vrais milieux urbains. Ça n'empêchera pas que le développement urbain moins intéressant peut se poursuivre. On voit bien que sur les marges de la deuxième couronne, ça continue. Il y a encore des terres agricoles, il y a des projets qui se font. Bon, ça n'empêche pas ça, mais sur le gros de la région métropolitaine, c'est vraiment la densification autour des pôles. Et ce qui est très curieux, c'est que ce n'est pas une stratégie si planifiée que ça. Hein. Non, mais l'autre question est très bonne. C'est-à-dire que c'est vrai que les milieux dont on parle, un de leurs problèmes, c'est que le paysage qu'ils produisent est souvent dur à consommer.
Si on regarde, par exemple,
dur sur le moral, pardon.
Si on regarde, par exemple, le quartier du
Centre,
c'est vraiment...
Moi, je pense qu'éventuellement, ça va être un vrai quartier. Je pense ça, mais pour le moment, c'est un simulacre urbain.
De toute façon, ça a commencé, c'est un peu drôle aussi. C'est comme de voir aussi tous les milieux, parce qu'il y a autant les grosses maisons hyper chères, qui va avoir les petites maisons un petit peu style rural, campagnard. Fait que ça fait quand même drôle de voir comme à Brossard, c'est comme si tous les milieux se côtoyaient, en fait. À savoir, dans le fond, ça fait drôle quand même. Mm.
Juste pour, en fait, ce qu'on constate depuis au moins une vingtaine d'années, c'est qu'il y a une forme d'autonomisation de la banlieue. On peut vivre, travailler, s'y récréer. Bon, les gens qui habitent là n'ont plus besoin de venir travailler en ville. Il y a vraiment une forme, bon, ce que tu parles de l'émergence des différents pôles, ça va continuer sans doute. Mais il faut quand même parler du centre. Si on regarde ce qui s'est passé au centre-ville de Montréal depuis une dizaine d'années, c'est quand même phénoménal. Nous, on suit la transformation de Montréal depuis plusieurs années. Puis le centre vraiment renaît avec beaucoup plus d'habitations, toutes sortes de projets. Il y a beaucoup moins de terrains vacants qu'il était vacant depuis les années 60, quand même. Donc, il y a encore une demande, il y a une nouvelle demande pour le centre qu'on ne voyait pas il y a si longtemps. Donc, c'est sûr qu'il y a du développement qui va continuer à se faire en banlieue. Mais je pense que la ville-centre est en meilleure position qu'elle l'était il y a quand même quelques années. Il faut aussi s'y pencher parce que c'est quand même quelque chose...
Avec des ménages plus petits.
Ménages plus petits, c'est ça, des logements beaucoup plus petits, la présence des universités, des étudiants, donc un dynamisme. Qui est toujours resté, qui est un peu en déclin, mais qui renaît quand même depuis quelques années. Et ça, je crois que ça va se maintenir parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de signe, même s'il y a une crise partout dans les grandes métropoles. Là, au Québec, on n'a pas été touché par ça. Donc.
Dernière. Oui?
Avez-vous étudié les cas à l'extérieur de l'Amérique du Nord, d'avoir vu en Europe ou ailleurs?
Moi, je ne les ai pas étudiés spécifiquement. Je les connais un peu pour lire les travaux des autres, mais je n'ai pas fait de travaux sur ça. Mais là aussi, c'est très diversifié. Par exemple, la banlieue française, on a un bon collègue, Hervé Vieillard-Baron, qui a publié un livre qui montre que toutes sortes de trajectoires, ça correspond à une image, un cliché un peu qu'on a en tête, qui est très différent de ce qu'on retrouve aux États-Unis, au Canada, au Québec. Mais là aussi, il y a une très grande diversité, une complexité des types de milieux.
Mais il y a quand même, parce qu'on regarde surtout les métropoles nord-américaines, même européennes, il y a des choses que Montréal apparaît un peu différent. Par exemple, sur les métropoles nord-américaines, il est clair que ce que dit Claire sur le centre qui résiste assez bien, qui est en redéveloppement actuellement, revitalisation, c'est quand même un phénomène montréalais qui n'est pas courant. La deuxième chose, beaucoup de métropoles se sont vraiment appliquées à faire sortir un certain nombre d'activités du centre. Si on prend Paris, il y a une volonté vraiment de faire sortir, par exemple, les petits artisans, les universités. Cette volonté-là, on ne l'a pas eu à Montréal. C'est pour avoir un centre très, très valorisé, très, très cher. Ça, il n'y a pas eu ça. Et on a fait un peu le contraire. On a maintenu la volonté de garder le port alors qu'il y avait un projet qui y avait à Rennes. Il y avait l'aéroport, le choix de garder l'aéroport sur l'île. Plutôt choisir Mirabel. Après, les gens ont dit, comment ça se fait qu'il y a de la congestion? C'est un choix parmi d'autres, mais cette volonté de maintenir beaucoup de trucs dans le centre comme ça, c'est pas tous les métropoles qui ont choisi ça. Je sais pas ce que tu as pas.
Je remercie Claire, je remercie Gilles, je vous remercie.
Merci à vous.
La prochaine, à l'hiver prochain, en février, je crois, qui va porter sur la période de la crise et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, deux auteurs, deux chapitres dans notre futur ouvrage qui va être publié l'an prochain. Merci.
Merci.
Merci. Merci. Merci.